Pourquoi la romance est-elle si méprisée? En littérature, au cinéma ou même dans les chansons, tout ce qui exalte le sentiment, la fragilité, vous savez, l'émotion, la romance qui vous prend par surprise et dont vous avez fini par vous méfier de peur de s'y vautrer, de peur de s'y noyer, de perdre tout semblant de dignité. Il suffit de voir dans quel état ça vous met. Le frisson que vous n'avez pas demandé, la petite larme à la fin dont vous dites volontiers que c'est une poussière dans l'œil, faut pas non plus charrier, la bienveillance, la bonté, la bien-pensance, toutes ces valeurs pour le moins naïves dont vous êtes revenu avec le temps. Vous savez trop bien que la vie, c'est plus compliqué et que vous ne vous ferez pas prendre par les sentiments, pas vous, non, pas maintenant, pas de dégoulinant. Et pourtant, il faut toujours un peu lutter contre ce que vous appelez la facilité. On aimerait bien, secrètement, que soit toujours aussi bien dessinée la frontière entre les gentils et les méchants, que l'amour connaisse quelques heurts, mais qu'il triomphe toujours à la fin, que ça se passe bien. Faut-il qu'on ait tant souffert pour qu'on soit incapable d'accepter que dans un roman, dans un film ou même dans une chanson, tout ce qui compte, ce soit l'émotion? Faut-il qu'on soit si misanthrope ou si misogyne que l'on regarde de haut toutes ces belles histoires dont les femmes artistes se sont traditionnellement emparées? Où est passée notre sensibilité?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a été surnommé, sans doute à raison, le prince de la romance. Il est peut-être le pianiste français le plus connu au monde, je le disais, avec plus de 90 millions de disques vendus en 50 ans de carrière et des milliers de concerts. Son nouveau disque, Forever Love, sort dans une semaine. De la mélodie, de l'émotion, des envolées lyriques, du rêve et de la romance. Bonjour Richard Federman.
Bonjour Augustin, bonjour à vous tous.
Merci beaucoup d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie de m'inviter.
Jusqu'à quel point êtes-vous romantique, Richard?
Je crois que c'est jusqu'au bout de mes doigts, hein, c'est-à-dire que ça correspond tout à fait à ma personnalité et à tout ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps.
Donc vous l'êtes autant que le laissent supposer vos morceaux?
Tout à fait, tout à fait.
Et quelle est la chose la plus romantique que vous ayez faite dans votre vie? Moi je veux savoir, on veut savoir.
Oui. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire de très très romantique? Non, je crois que c'est toujours quand je m'installe au piano et quand je peux donner un petit peu toutes mes émotions pour mon public, ce sont ces choses-là que j'adore faire.
Y compris dans l'intimité avec le piano?
Dans l'intimité bien sûr, c'est-à-dire que je travaille toujours et puis lorsque je suis en famille, si je peux jouer, si ça n'embête pas trop ma famille, c'est drôle.
Si vous le faites par amour, Richard, ouais. À quoi est-ce qu'on s'expose, je me suis demandé, quand on exalte le romantisme, quand on exalte le sentiment, l'amour avec un grand A, quelle est la réaction des gens?
La réaction, je l'ai senti déjà depuis mon premier enregistrement, c'est-à-dire que j'ai vu qu'à travers le piano, à travers ma façon d'interpréter ces mélodies qui peuvent paraître parfois faciles, simples et puis toutes mais tellement belles et qui touchent le cœur des gens. Donc c'est ça qui est très important et puis pouvoir passer les frontières. Donc me retrouver un petit peu partout en Asie, en Amérique du Sud avec des publics différents mais qui répondent toujours.
Mais on peut être aussi taxé de fleurs bleues, Richard Federman.
C'est vrai que ça peut m'arriver. C'est vrai que ça peut arriver. Et puis cette musique instrumentale est parfois décriée, je dois dire.
Donc, comment vous le vivez ça?
Je le vis bien au fil des années. J'ai bien vécu. C'est-à-dire qu'au bout de 45 ans, j'ai vu que j'avais mon public et donc j'ai vu que je pouvais apporter un peu de joie et de bonheur à beaucoup de personnes.
Mais c'est intéressant que vous disiez traverser les frontières, parce que ce qui est quand même fou, c'est qu'à l'étranger, vous êtes célébré comme l'un des plus grands pianistes au monde, alors qu'en France, c'est loin d'être le cas. Est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi?
Non, c'est très difficile et nul n'est prophète en son pays. Et je crois que ça me correspond tout à fait. C'est-à-dire que j'ai eu la chance au tout début avec Balade pour Adeline, avec mes premiers morceaux, d'avoir du succès. J'ai fait l'Olympia, j'ai fait la salle Pleyel, c'était une gageure de faire la salle Pleyel pour ce pianiste, moi, pas classique, plutôt populaire, variété, de faire 13 fois la salle Pleyel, donc c'était extraordinaire.
Mais dites-moi, si on revient aux origines, ce pari d'une musique portée sur la romance, à quel moment est-ce qu'il s'est imposé à vous? Parce que vous auriez pu vous diriger vers un autre registre, je suppose.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'au tout début, je gagnais ma vie en étant pianiste accompagnateur, j'ai joué dans des groupes, j'ai joué avec beaucoup de musiciens, et je pensais pas un jour pouvoir faire cette carrière, me retrouver, surtout que je suis quelqu'un relativement timide et réservé, donc me retrouver sur scène devant des milliers de personnes. Bon, heureusement, j'ai mon piano pour me sentir encore mieux. Mais c'est venu comme ça. Voilà, j'ai eu ce succès, ces premiers succès, et ça m'a porté. Et puis, année après année, j'ai vu que j'essayais d'être le plus sincère et c'est-à-dire plus important.
C'est la réaction du public aussi, les gens qui spamment, qui s'évanouissent parfois, je suppose.
Non, on n'a pas eu tant que ça, mais il y a beaucoup de personnes qui m'aiment beaucoup, et puis c'est touchant, quoi, c'est touchant.
Richard Kledermann, qu'est-ce qui fait du piano l'instrument romantique par excellence?
Je crois que c'est ce bel instrument, c'est un instrument roi, je peux dire. Le problème que j'ai avec le piano, c'est qu'à à travers mes tournées, mes concerts, j'ai tous les jours un nouveau piano, quoi. Donc ça m'ennuie un petit peu, mais bon...
Il faut être infidèle.
Voilà, exactement.
C'est la romance infidèle, le piano, somme toute.
En quelque sorte, donc il faut que je m'habitue, il faut que je travaille sur le piano, il faut que... Mon rêve, c'est de pouvoir voyager avec mon piano, mais c'est injouable.
C'est jouable, mais ça coûte très cher. C'est pas très écologique. Richard.
Non, je le ferai pas.
J'ai envie qu'on vous entende, moi, au piano, ce matin, pour nous emmener ailleurs et nous replonger dans votre répertoire avec un florilège. De votre balade pour Adeline et de votre mariage d'amour, deux de vos plus grands succès, tous deux composés par Paul de Senneville.
Avec joie.
C'est à vous.
Merci.
Je ne me suis pas évanoui, mais j'ai été très ému, Richard Kledermann.
C'est très gentil, Augustin, c'est très gentil. Voilà.
Au piano, ce matin, sur France Inter, dans Boomerang, j'aimerais qu'on revienne quand même, Richard, sur ce titre « Balade pour Adeline », succès mondial, vendu, dit-on, à plus de 22 millions d'exemplaires. Par quel hasard avez-vous été choisi pour le jouer, ce morceau? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est très drôle, c'est-à-dire que j'ai eu un coup de téléphone un jour de Paul de Senneville et Olivier Toussaint, qui cherchaient un pianiste. C'est-à-dire, j'ai fait un casting incroyable, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà auditionné une vingtaine de pianistes, tous très bons, certainement, merveilleux, très sympas. Et puis moi, je suis arrivé, j'ai pu les rencontrer. Et puis comme ça, voilà, ils m'ont parlé de leur projet. Ils m'ont dit, tiens, voilà, regarde, on a composé cette mélodie qui... Si on fait un petit succès en France, si on arrive à vendre quelques milliers de disques, mais... Voilà, je crois que ça, on sera très contents pour toi, pour nous, et voilà comment ça s'est passé. Ils m'ont choisi, je ne sais pas pourquoi, encore faudrait leur demander, mais j'étais très sympa, et puis j'étais simple, tout ça, donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont choisi.
Mais qu'est-ce qui fait, pour vous, la spécificité de cette partition de Paul de Senneville, d'un point de vue musical, d'un point de vue technique?
Alors, technique, c'est pas compliqué du tout. Non, je crois que c'est-à-dire, c'est une mélodie simple, et qui touche le cœur des gens, et qui a touché le cœur des gens, surtout dans les années 80, 77, 78, c'était la pleine période du disco, donc c'était incroyable de balancer un morceau, un instrumental comme ça, et puis...
Qu'est-ce qui vous a touché, vous, quand vous l'avez entendu pour la première fois?
Alors, en fin de compte, je trouvais qu'elle me tombait bien sous les doigts, et puis je me suis dit, tiens, non mais ils sont talentueux, ces gars-là.
Et vous avez eu un petit frisson ou pas?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, tout de suite, j'ai eu un frisson. Mais je me disais, vraiment, c'est une mélodie qui m'a touché également, tout de suite.
Alors c'est intéressant, ça tient à quoi pour vous, Richard Clayderman, une bonne mélodie? Est-ce que vous avez fini par le savoir avec le temps?
Non, pas du tout. pas du tout. Et j'ai enregistré des milliers de morceaux, et à chaque fois, ce que je recherche, c'est... comme vous disiez, le petit frisson tout de suite lorsqu'on écoute la mélodie, et puis essayez-moi de retranscrire au mieux ces mélodies, et puis d'amener un peu tout ce que je ressens à ce moment-là, quoi.
Ça change tout quand on met tout.
Ah oui, non, il faut complètement. Et puis vous voyez, par exemple, cette balade, je l'ai jouée des milliers de fois, et à chaque fois, ben, soit je joue en piano solo, soit avec un grand orchestre, ou soit simplement avec juste des cordes. C'est la magie d'un morceau qui a pu commencer.
Et vous arrivez à chaque fois à remettre tout de vous chaque fois que vous la jouez?
Complètement.
C'est un vrai boulot.
Voilà. Non, mais c'est si j'ai un bon piano, si je me sens bien, et si le public, je sais que le public attend Balade pour Adeline, donc.
Ah bah on l'attendait, nous, alors, sur France Inter. Qu'est-ce qu'il a changé, ce titre, pour vous?
C'est-à-dire que moi, à cette époque, lorsque j'ai enregistré, j'étais pianiste accompagnateur, j'accompagnais des artistes, j'ai commencé avec. Vous êtes trop jeune, mais j'ai commencé avec Christian Delagrange, Pierre Groscola. Ensuite, j'ai fait un petit peu Michel Jonas. Ah. Et puis ensuite, j'ai pu rencontrer Thierry Leluron pendant de nombreuses années. Donc, et puis, je commençais à faire des séances d'enregistrement. Je m'étais un petit peu spécialisé avec tous les synthétiseurs, avec toutes sortes de claviers. Donc, c'était un métier qui me portait. Je me disais, il faut vraiment que je continue dans cette voie.
Vous avez été aux côtés des plus grandes stars de la chanson, effectivement, et même Johnny Hallyday, Michel Sardou, Richard Clayderman. En fait, accompagner les autres au piano, être l'homme de l'ombre, c'est quelque chose qui vous plaisait?
Ah oui, tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, comme je suis quelqu'un de très réservé et un petit peu timide, donc ça me plaisait énormément.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand les lumières se sont projetées sur vous?
C'était terrible. C'est-à-dire que
vous avez été ébloui.
Ébloui, terrible, et puis de savoir qu'il y avait des déjà au tout début. Mon premier concert, c'était à Vienne. Et en plus, la capitale de la musique classique, c'est-à-dire c'était magique. Et puis, pour la petite anecdote, à la fin du concert, bon, il y avait des bis, donc c'est super, hein, il y avait un standing ovation, tout ça, c'était extraordinaire. Mais j'ai dû jouer la balade 7 fois, 8 fois d'affilée, le public demandait que ça. Donc, ça ne m'est plus jamais arrivé, vous me direz. Mais,
vous voulez dire que vous avez fait un concert en rejouant le même morceau tout le temps?
Oui, à la fin, dans les bis. C'est-à-dire, j'ai fait mon concert de 2 heures, et à la fin, ils ont demandé balade pour Adeline, et puis après, il redemandait balade, donc j'ai compris 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois.
Mais dans quel état était-il au bout de la 7e fois? C'est ça la question.
La balade ou
le
public?
Le public.
Alors le public était toujours...
La balade après.
Non, le public était super content, et puis c'était touchant de voir tout ce public qui, même après avoir écouté la balade 7 fois, était toujours aussi joyeux et puis touché.
Moi, ce qui m'a touché là ce matin, c'est que vous venez juste de citer un nom qu'on cite jamais, et c'est le nom d'une personne que j'ai envie qu'on entende.
Ah ouais ?
Merde alors !
J'ai envie d'être le plus libre possible. Et c'est un métier qui le permet. J'ai pas de contraintes, j'ai pas de patron au-dessus de moi. Je peux faire tout ce qu'il m'est possible de faire. Donc ça, c'est formidable. C'est un métier qui permet ça. C'est pour ça que je l'aime tellement. Je n'ai pas l'impression d'avoir des contraintes. En fait, j'en ai. La principale, c'est le public. Quand j'imite quelqu'un, il faut vraiment que je sache le faire tout de suite. Parce que si ça représente un travail, si ça représente une contrariété, ou enfin vraiment si ça représente une contrainte, quelque chose que je n'arrive pas à faire, j'abandonne.
Thierry Leluron, en 1976, Richard Clayderman, pourquoi est-ce qu'il a tant compté pour vous, au fond? Quel soutien est-ce qu'il a été?
Oh, il a été tellement important, c'est-à-dire que je l'accompagnais déjà depuis plusieurs années. Et alors, c'était quelqu'un d'extraordinaire pour nous musiciens, nous qui connaissions son tour par cœur, mais il avait toujours le génie de, suivant son humeur, suivant l'actualité, d'improviser sur scène. Donc, nous passions, nous musiciens, des moments extrêmement agréables. Non, bah, c'est-à-dire qu'il était capable de parler de certaines choses qui se passaient le jour même. Donc, nous, on était surpris puisqu'on attendait pour continuer le répertoire. Et puis, lui, il était capable de rester improvisé sur, et nous, ça nous faisait beaucoup rire quand on passait des moments. Alors, non seulement nous musiciens, nous avions des centaines de galas et de concerts par an, et puis c'était vraiment un plaisir d'être avec lui sur scène.
C'est drôle parce que vous êtes ému, Richard Clayderman, quand vous parlez de lui.
Ah oui, tout à fait, puisqu'il a été un petit peu aussi le détonateur de ma carrière, c'est-à-dire quand il a appris que je commençais à enregistrer des morceaux, tout de suite il m'encourageait, et puis c'est très drôle, et il me faisait, avant les galas, j'étais comme sa vedette américaine, je jouais deux ou trois morceaux avant sa prestation, et c'était toujours bienveillant de sa part.
Qu'est-ce qu'il pensait de la balade pour Adeline?
Ah non, il a tout de suite aimé. C'est-à-dire qu'il m'a même imposé, c'est-à-dire que moi au début, bon, bah, je...
Ne me dites pas qu'il vous a demandé de la jouer 7 fois.
Non. Mais par exemple, il m'a imposé, c'est-à-dire, c'est... du coup, c'était incroyable d'arriver, il m'impose, donc ça a porté ses fruits, puisque d'un seul coup, j'étais vu par des millions de personnes, quoi.
Il est parti trop tôt.
Trop tôt. Et il était toujours vraiment... tellement content de mon succès, et à chaque fois que je le revoyais, après, une fois que j'étais parti, une fois qu'il m'a dit, bon, bah, écoute, ça a l'air de bien marcher pour toi maintenant, bah, oui, j'ai dit, écoute, je vais commencer peut-être à, je vais être obligé de te laisser, et ben, il était vraiment plus content pour moi que de me perdre. Bon, il a trouvé après d'autres pianistes qui étaient très bons aussi.
Dans l'archive qu'on a entendu, Thierry Leluron parle de son rapport au travail, et notamment d'imitation. Il dit que quand il imite quelqu'un, ça doit venir naturellement, immédiatement, qu'il n'y a pas vraiment de travail. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous?
Ah ouais, c'est moi aussi, il faut que la mélodie me tombe tout de suite sous les doigts, et si j'ai à travailler, donc c'est un peu plus délicat. Mais si tout me tombe sous les doigts et que je me sens bien, c'est bon signe pour mes enregistrements et puis pour mon répertoire.
Ça veut dire que être pianiste, pour vous, Richard Clayderman, c'est pas forcément accepter de se confronter à l'instrument, c'est au contraire être avec lui.
Avec lui, oui.
L'accompagner sans cesse.
Oui, l'accompagner, et puis vous voyez, quotidiennement, je dois jouer,
Mais vous travaillez quand même, rassurez-moi.
C'est-à-dire, je travaille...
Votre piano.
Ah ouais, quotidiennement, c'est pour ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je voyage, j'ai toujours un piano numérique avec moi. Donc, quand je me retrouve même en tournée, en concert, j'ai toujours un piano numérique dans ma chambre, donc pour pouvoir travailler. Et à la maison, c'est la même chose.
Vraie question, Richard Clayderman. Oui. Question que je pose souvent aux pianistes. Pourquoi le piano et pas la flûte à bec?
Exactement. Vous savez, mon père était professeur de musique, donc... il y avait un piano droit à la maison, et tout naturellement, je me suis...
C'est pas lui qui vous a mis au piano?
Non. Il m'a laissé complètement faire, et c'était moi qui était demandeur. C'est venu naturellement, voilà.
Professeur de musique, vous dites, dans quel univers musical est-ce que vous avez grandi, Richard Clayderman? Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Pagès? Parce que je le précise, votre vrai nom, c'est en réalité Philippe Pagès.
Tout à fait, Philippe Pagès. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré mes producteurs... Bon, ils pensaient peut-être à cette carrière internationale aussi, peut-être de leur côté, mais ils me disaient, Philippe Pagès, c'est pas très bien, c'est bon, je ne sais pas.
Moi, j'aime bien, parce que je suis franchouillard, ouais. Mais Richard Clayderman, c'est vrai que ça claque.
Ça claque. Et alors, et c'est vrai, lorsqu'on a lancé Clayderman, et après, je disais, Philippe Clayderman, non,
Richard Clayderman.
Voilà, donc c'était plus porteur pour eux.
Mais qu'est-ce qu'on écoutait chez les Pagès, dans votre famille?
Alors,
quand
mon père était professeur d'accordéon aussi. Donc, tout ce qui était musette, tous ces morceaux d'accordéon, qui sont joués par des virtuoses, hein, parce
oui,
que c'est
sûr.
Très difficile l'accordéon. Alors l'accordéon bouton et l'accordéon piano. Donc,
vous en jouez-vous?
Un petit peu d'accordéon piano, mais pas très bien. Mais
au
pourrais...
point de jouer la balade pour Adeline.
Si, ça peut aller, ça.
Ah, c'est vrai?
Non, ça peut aller. C'est la main gauche qui est difficile avec la main gauche de l'accordéon.
Richard Clayderman, quand est-ce que les adultes autour de vous ont compris que vous aviez sinon un don, en tout cas de fortes prédispositions?
Ah bah, à cause de mes études, c'est-à-dire j'ai fait ma 6e, 5e, 4e, 3e, je suis passé en seconde, c'était limite, après première et terminale, là c'était fini. C'est-à-dire, je ne travaillais plus, je ne pensais qu'à la musique, je ne pensais qu'à jouer avec des musiciens. Je n'avais que ça dans la tête, pouvoir jouer et faire de la musique.
Puis quand même, à 12 ans, vous entrez au conservatoire, à 16 ans, vous recevez un premier prix de piano, et vous décrétez que le classique, ça vous intéresse pas vraiment parce que vous aspirez à autre chose.
Oui, ce que je voulais faire, c'était autre chose avec la musique. C'est-à-dire, encore une fois, des pianistes, il y en a des milliers à travers le monde qui jouent divinement bien, tellement mieux que moi. Mais voilà, c'est-à-dire que j'avais envie de changer, même que lorsque j'ai repris certains thèmes classiques que j'ai arrangés à ma façon, à ma manière. Bon, j'ai toujours essayé d'amener quelque chose de différent, parce que si c'est pour rejouer la version originale, c'est très bien, je l'admets. Il y a peut-être des morceaux aussi que je n'arriverai jamais à jouer. Mais j'avais envie d'amener une couleur, quelque chose de particulier.
Mais ça a été pris comment? Par votre entourage, par les professeurs, par vos parents?
Alors, mes parents, très bien, puisqu'ils voyaient que j'étais passionné par la musique. L'entourage aussi, la famille, mais beaucoup de critiques, c'est-à-dire les classiques, les puristes, ils m'attendaient avec un bâton, et puis ils comprenaient pas bien.
Ça vous a blessé?
Un petit peu au début, ça me blessait, parce que je me disais, bon, j'essaye de faire tellement bien mon truc, et puis je le ressens tellement bien que ça me touchait, mais après je me suis rendu compte que le public était là, le public m'écoutait, et c'est là que j'ai pu reprendre un peu ma revanche.
Au fond, encore aujourd'hui, Richard Clayderman, à quoi est-ce que vous aspirez?
Eh bien écoutez, encore une fois, j'espère pouvoir continuer de nombreuses années. Bon, les années passent et je crois que je suis encore en bonne santé pour pouvoir continuer, pouvoir encore voyager. Il y a eu cette période de Covid qui nous a foutu tout en l'air, les musiciens, artistes, de ne plus rien faire pendant 2 ans. Donc c'est terrible, mais là je croise les doigts pour reprendre les tournées et j'aspire quand même à continuer encore de nombreuses années et puis rencontrer encore mon public. Il y a des choses incroyables, par exemple, en Asie, le public est toujours très jeune, de plus en plus jeune. Il y a de plus en plus de jeunes enfants qui commencent la musique et donc qui viennent m'écouter. Donc c'est incroyable d'avoir ce public de très jeunes. Et puis ils sont là avec leurs parents qui m'ont découvert il y a 40 ans, 30 ans, 15 ans. Donc c'est très familial, donc c'est très touchant.
Jusqu'à quel point est-ce que vous êtes rêveur?
Ah, alors rêveur... J'espère rêver encore de nombreuses années, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu la chance de voyager partout, de jouer sur des scènes prestigieuses, de donner des beaux concerts devant soit quelques centaines de personnes ou quelques milliers de personnes, jouer dans des stades de sport. Donc c'est incroyable de se retrouver là, un pianiste comme ça, en plein milieu d'une grande scène.
Mais on continue à rêver quand même.
Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. Mais déjà, j'ai eu beaucoup. Donc j'espère... encore faire rêver les gens, mais j'ai déjà eu ma part. Donc, même si tout s'arrêtait maintenant, là, du jour au lendemain, je crois que je serais le plus heureux quand même.
Parce que c'est-à-dire que le rêve et la rêverie, ils sont inscrits.
Ah oui, c'est, bien sûr.
C'était inscrit chez vous, Richard Clayderman. Ouais. Je pense à cet album emblématique qui s'appelle Rêverie de 1979 et dont on va écouter votre Lieber Traum. Alors on va se laisser porter ensemble, transporter l'émotion, le frisson, les sentiments. Vous êtes sur France Inter avec Richard Clayderman. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
troublant, hein, mais on est vraiment quelque part entre le frère cadet de Dave et Björn Borg. Hein, il a la dent étincelante, l'œil bleu éternel avec son cheveu tirant sur le blanc, toujours aussi bien peigné, le doigt virevoltant façon baguette magique, tout en jean, sweat à capuche et basket. On s'attendait au smoking, mais c'est ça, les aléas de la radio. Le pianiste Richard Klederman, invité de Boomerang pour parler d'amour, évidemment, et pour parler de chansons. Aujourd'hui, en 2022, combien de chansons avez-vous à votre répertoire, Richard ?
Oh, j'ai dû enregistrer à peu près plus de 1500 morceaux. Et donc, je me souviens plus de tous, hein, bien sûr, mais ça m'a demandé voilà, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de travail. Et j'en suis fier. Ouais,
C'est drôle, parfois vous ne vous souvenez pas du tout des morceaux que vous avez joués naguère.
Non, pas du tout. C'est pour ça que je suis un bosseur, je suis un besogneux. C'est terrible. Il y a des pianistes ou des musiciens qui ne jouent pas pendant plusieurs jours et puis qui sont capables de reprendre leur instrument comme ça. Moi, j'ai besoin de répéter, j'ai besoin d'être à l'aise avec l'instrument.
Mais comment ça se passe, Richard, vous qui êtes interprète, quand une chanson vous plaît et que vous souhaitez la reprendre ou l'enregistrer dans un album, comment vous faites ?
Je travaille beaucoup avec la maison de disques qui m'aide énormément, c'est-à-dire qui me disent, bon voilà, pour les enregistrements, si tu pouvais enregistrer tel ou tel morceau, moi je les écoute et puis je me dis bon bah c'est bien. En revanche j'ai carte blanche sur mes concerts.
Oui, mais il faut quand même demander l'autorisation à l'artiste, je suppose.
Oui, il faut. Bah, je crois que non, je crois qu'il y a pas besoin. Non, ça se fait naturellement.
C'est arrivé que vous ayez des réactions étranges de la part d'artistes que vous repreniez ?
Non, jamais.
Tant mieux, en tout cas, ce qui est passionnant.
Mieux. Pas de procès, que... rien du tout, heureusement.
Ça serait génial en même temps. Un procès pour avoir repris un de mes titres. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est que dans vos reprises, la voix des interprètes disparaît et vous lui substituez d'une certaine façon celle du piano. Comme si le piano était une voix. C'est d'ailleurs assez troublant. Quand vous jouiez tout à l'heure, vous chantiez en même temps.
Oui, ça m'arrive des fois.
Vous vous excusez pas, je trouve ça fascinant.
Et puis, c'est comme ça que je ressens le...
Parce que le piano est une voix.
Oui, je crois. Et puis, vous voyez que lorsque je reprends un thème, il faut que j'oublie les mots, il faut que j'oublie les paroles du morceau original. Donc, il faut que... Le piano chante, il faut que le piano déverse un petit peu toutes mes sensations, mes émotions, encore une fois. Ouais.
Mais c'est intéressant, oublier les mots, ce que vous venez juste de dire, faire disparaître les mots au profit des notes. Qu'est-ce que ça apporte ?
Bah, ça apporte un bienfait terrible, c'est-à-dire que je suis tellement fier après, lorsque je reprends le morceau, que je l'ai joué, que je l'ai interprété, que je l'ai enregistré, que je l'ai joué pour mon public. Donc, ils le reconnaissent déjà, heureusement, c'est bien. Et puis, je parle des reprises, hein. Et puis, c'est jouissif.
Et puis, ça traverse les frontières, effectivement.
Ah oui.
C'est-à-dire tout le monde le comprend, ce langage.
Tout le monde le comprend. Et je parle un petit peu anglais, un petit peu espagnol, un peu japonais, un petit peu chinois.
Vous voulez dire avec votre piano?
Non, entre les morceaux. C'est-à-dire, je m'adresse quand même au public.
Pardon?
Un petit peu. Je m'adresse quand même un petit peu au public.
Vous changez de langue pendant le concert?
Ah, oui, c'est-à-dire que... Non, j'ai pas grand-chose à dire.
Richard Klederman, polyglotte.
Ouais,
je suppose que quand vous êtes en France, vous parlez français.
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, pendant 2 heures, je vais jouer, je m'adresse quand même un petit peu au public de temps en temps. Donc, j'essaie de leur faire...
Bah,
combien je suis heureux d'être là. Comme par exemple, en japonais, je dis « Minasama konbawa, maitoshi daisukina, nihon ni kolarete totemo urishite. Solo solo o wakare no chikani narimashita minasan ni kaga deshita ka mata chikai uchi ni omeni kakarino.
J'espère que vous n'avez pas dit d'obscénité, Richard.
Non, c'est que de la gentillesse.
Bon.
Et puis c'est ce que j'ai envie de dire.
Moi, ce qui m'intéresse au fond, c'est la manière dont vous vous emparez si souvent de morceaux de pop. Au fond, qu'est-ce que vous allez puiser dans la pop ? Pourquoi ça vous intéresse tant ?
Ah, parce que ça m'intéresse, parce que c'est ce que j'entends, c'est ce que j'écoute, en voiture, à la maison, et je m'aperçois que la mélodie est forte. Donc je me dis, tiens, voilà, c'est un morceau que j'ai envie de jouer.
C'est un défi technique, cette adaptation, en fait ?
Un petit peu, c'est-à-dire que parfois, j'avoue, si j'ai pas le bon feeling, si ça me tombe pas, comme je vous disais tout à l'heure, sous les doigts tout de suite, je laisse tomber. Mais généralement, ça va, lorsque la mélodie m'a déjà interpellé, je suis à peu près sûr que ça peut aller après.
Quel morceau avez-vous, diable, laissé tomber ?
Ouais. Je m'en souviens même plus. Allez. Je suis désolé.
Quels sont les pianistes ?
Un rap, par exemple, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas faire.
Vous avez essayé de reprendre Eminem ?
Non, parce que
dites-le-nous tout de suite, Richard.
Non, parce que derrière le rap, des fois, musicalement, c'est très très fort. C'est très fort, les boucles.
Bien sûr.
C'est très très bien.
D'ailleurs, les rappeurs utilisent des samples de piano souvent.
Exactement, et j'ai appris que Joe Starr avait repris un petit gimmick de je crois que c'était Mariage d'amour, c'est-à-dire... On me l'a fait écouter, c'est incroyable ça. Mais ça dure 3 mesures, mais ça revient.
C'est quelque chose quand même.
Ah ouais, non, c'est...
Quels sont les pianistes que vous admirez plus que tout, le plus grand ou la plus grande pour vous, pianiste?
Alors, curieusement, j'écoute tous ces pianistes de jazz, c'est-à-dire je me sens incapable de jouer comme ils jouent. Donc, ce sont Herbie Hancock, Chick Corea, Michel Petrucciani. Ce sont des pianistes que j'écoute régulièrement. Joe Sample. Et puis des instrumentistes, des guitaristes comme Pat Metheny. Donc, ce sont ces musiciens que j'écoute et que j'admire.
Parce que ça tient à quoi, au fond, pour vous, être un grand musicien?
Je crois que être un grand musicien, c'est déjà de pouvoir aimer son instrument, d'en faire sa carrière, déjà, faut en vouloir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peu d'élus, hein, je crois, hein, c'est ce que je ressens, il y a peu d'élus qui peuvent avoir cette chance de voyager, de faire carrière. Donc, ça tient à...
Le courage.
Le courage, le travail.
La générosité.
La générosité, je crois qu'elle vient naturellement lorsqu'on est bien avec son instrument.
Et pour finir cette émission, vous avez fait preuve de générosité en choisissant de nous interpréter un autre florilège de 4 titres que l'on retrouve sur votre dernier disque, dont Perfect Symphony d'Ed Sheeran et Viva la Vida de Coldplay,
ouais,
c'est ça?
Un petit peu, oui, Viva la Vida.
Les autres, moi, je vais laisser aux auditeurs et aux auditrices de Boomerang les deviner.
D'accord.
Richard Klederman, on vous écoute.
Avec joie. Merci encore.
Merci Richard Klederman d'être venu faire un tour dans cette émission et merci à Benjamin Troncin et Guillaume Roux à la prise de son et à la technique ce matin. Je rappelle, Richard, que Forever Love, votre prochain album, sort la semaine prochaine et qu'on vous attend de pied ferme pour une série de concerts en France. Il n'y a pas de raison que seule l'Amérique latine, l'Égypte et l'Irlande en profitent. C'est toujours les Irlandais qui ont la primeur. On n'en parle jamais de ça. Arrêtons l'omerta. Merci à vous Richard et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Victor Candé Laft et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite les médias avec Sonia De Villa. Est-ce que vous m'entendez, Sonia?
Ah oui, je vous entends. Augustin, je vous entends. Et je vous fais écouter Clara Luciani qui vient sonner à la porte d'une jeune fille.